C'est Geoffroy.
Salut Tim.
Comment vas-tu?
Ça va super et toi?
Ouais, ça va, ça va. Écoute, déjà, merci d'être venu pour cette petite interview. On aurait pu la faire en présentiel, mais malheureusement, les conditions aujourd'hui nous
Bien
empêchent.
sûr.
Écoute, Geoffroy, toi, du coup, tu es investisseur immobilier ici. Évidemment, cette interview, elle va être pour notre communauté. On va partager pas mal de choses. Et du coup, je pense pour commencer, c'est intéressant parce que tout le monde ne te connaît pas forcément. Que tu te présentes un petit peu, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais?
Mais écoute, déjà, merci à toi de me faire intervenir. C'est très sympa de ta part. Alors moi, je m'appelle Geoffroy, j'ai 25 ans, donc j'ai eu 25 ans récemment. Je suis originaire de Bretagne. Donc je travaillais sur Paris et maintenant je suis revenu en Bretagne. Je suis revenu m'installer ici depuis que je suis devenu indépendant financièrement, du coup. Et ça fait maintenant 4 ans que j'investis dans l'immobilier. Donc j'investis de façon classique et ensuite je me suis spécialisé avec une stratégie d'investissement. Et du coup, voilà, donc je suis devenu rentier immobilier l'année dernière, en avril. Donc là, j'ai démissionné de mon travail que je faisais à Paris et je suis revenu m'installer ici. Et depuis, en fait, j'aide et j'accompagne des personnes à investir dans l'immobilier tout en étant formé via des cours en présentiel, mais aussi en ligne.
Super, super. Bon, c'est excellent, c'est excellent. Donc ça, finalement, en pas beaucoup de temps, hein, tu nous as dit à peu près combien de temps tu as du coup à partir de
Grosso
zéro, on va
modo.
dire?
Ouais, grosso modo 4 ans.
Ok,
Grosso modo
super.
4 ans, ouais.
Bon, ça, c'est vraiment déjà super inspirant. Je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent sont intéressées par ce genre de parcours qui voilà, permet d'être motivé, de voir des choses comme ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que maintenant, peut-être un petit peu d'autres gens à faire la même chose. Et ça, c'est vraiment super, super intéressant. Au départ, finalement, moi, ce que je me pose comme question, toujours ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour quelle raison toi, tu as voulu investir dans l'immobilier au départ.
Alors moi, j'ai choisi l'immobilier parce que c'était le pilier d'enrichissement qui me parlait le plus au début et que je voulais exploiter parce que voilà, il y a bien d'autres supports d'investissement qui existent, hein. Il n'y a pas que l'immobilier, il y a le e-commerce qui est très intéressant aujourd'hui, il y a énormément de choses. Et l'immobilier, le truc c'est qu'en fait, ça c'est palpable et ça répond à un besoin profond, le besoin de se loger. Et donc forcément, il y aura toujours une demande face à ça. Et ce système d'autofinancement, de parc immobilier qui grossit et qui s'autofinance, ça me parlait. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré, juste avant que je rentre dans le monde du travail, en fait, je me posais la question entre faire des études, puisque je voulais faire éducateur sportif, donc il me fallait faire pas mal d'études, notamment en STAPS, hein, il y avait un cursus de 5 ans,
D'accord.
ou alors travailler tout de suite. Et donc, en fait, je me suis rapidement rendu compte que voilà, si je voulais avoir des résultats différents, il fallait que je mette en place des actions différentes. Donc, je suis tout de suite rentré dans le monde du travail et du coup, j'ai directement exploité le pilier de l'immobilier. Ce qui fait que du coup, là, en 4 ans, j'ai pu réussir à en vivre. Alors que là, normalement, j'aurais dû être encore en études, normalement. Si j'avais suivi un petit peu le cursus classique.
C'est vraiment, je pense que là, tu dis quelque chose qui est super important. La vie est vraiment faite de choix. Et finalement, on se rend compte
Bien
que
sûr.
certains choix peuvent nous mener dans des trajectoires totalement différentes. Donc, toi,
Bien sûr.
évidemment, tu as choisi déjà en… Est-ce que, du coup, on se pose la question aussi jeune, est-ce que tu avais eu peut-être un mentor, tu as eu des choses, quelqu'un qui faisait quelque chose dans ta famille ou pas du tout, ou ça s'est appelé comment?
Non, pas du tout. Dans ma famille, alors naturellement, j'avais mes parents. Je pense qu'on a tous entendu nos parents nous dire que c'était intéressant de détenir de la pierre, mais voilà, c'est pas détenir de la pierre en sens dans le sens investissement immobilier, devenir indépendant financièrement, etc., etc. Développer des actifs, c'est plus la petite résidence principale. Voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr.
Et voilà, à côté de ça, non, pas du tout. Je me suis énormément formé aussi après moi-même sur Internet, sur le terrain, avec les différentes personnes et interlocuteurs que j'ai pu rencontrer. Moi, ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est j'avais rencontré en fait une personne avant que je prenne la décision de soit faire les études, soit rentrer dans le monde du travail pour investir. J'avais rencontré une personne à la salle de sport et on avait échangé. Et en fait, cette personne-là, elle m'avait dit que du coup, elle vivait dans la ville dans laquelle j'étais, en Bretagne. Et je lui disais, OK, tu vis où et tout, comment ça se passe? Il me disait qu'en fait, il avait acheté un appartement et que, il avait des colocataires. C'est-à-dire qu'il avait deux chambres supplémentaires, donc c'était un T4, il y avait trois chambres. Et en fait, ces deux colocs payaient son emprunt. grâce au loyer qu'il recevait chaque mois. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est très intéressant de faire comme ça. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment à l'opportunité. Donc, je me suis dit, bon, bah, il faut absolument que je fasse ça et que je mette ça en place. Donc, je me suis formé et ensuite, j'ai tout fait pour, en fait. C'est-à-dire que, il suffit pas simplement de se former, il suffit aussi de mettre les choix en conséquence. C'est-à-dire que moi, il fallait absolument que j'ai un CDI pour investir. Du coup, je me suis dit, bon, bah, les études, c'est mort et je vais tout de suite prendre un CDI pour commencer à utiliser l'effet de levier. Et puis, après, ça s'enchaînait comme ça. Mais sinon, j'avais pas vraiment de personnes, de mentors ou quoi, en fait. Donc,
Ok,
voilà.
super. Mais ouais, c'est vraiment très marrant ce que tu dis parce que je me reconnais un petit peu dans ce que tu as fait. À un moment, j'ai dû faire un choix aussi. J'étais dans mes études et enfin, j'étais en stage exactement. Et puis, je devais retourner dans les études et j'avais suivi une formation dans l'immobilier. Et on sait, bon, je pense que la plupart de mes auditeurs nous le savent. Si tu veux vraiment avoir un profil maximisé auprès de la banque, si tu n'as pas de CDI, c'est compliqué.
C'est compliqué, ouais.
Alors, ce n'est pas
Tu peux,
impossible, hein?
ouais, voilà ce que j'allais dire. Tu peux faire sans. Je connais même des personnes qui l'ont déjà fait en intérim, ou il y en a certaines en chômage, mais bon, c'est quand même très rare, c'est très compliqué. Et c'est un processus qui demande beaucoup plus de rigueur. Et là, il faut vraiment être câblé en mode mindset parce que des refus,
C'est
t'en prends dix
clair.
fois plus.
Non, non, je pense que c'est clair, tu as vraiment raison. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles, comme vient de le dire le Geoffroy, vraiment, des personnes qui sont au chômage, en intérim, etc. C'est possible d'avoir des emprunts, mais vous allez vraiment avoir des difficultés plus que si on a un CDI, c'est clair.
Bien
Et
sûr.
du coup, toi, quand tu as finalement choisi ton emploi, est-ce que c'était déjà par passion ou c'était vraiment un CDI en mode vas-y, je trouve quelque chose simplement pour investir?
Mais moi, en fait, je suis rentré en gendarmerie.
Ah
C'est-à-dire
ouais.
que, ouais, mais j'ai toujours voulu faire quelque chose en rapport avec le sport. Et la gendarmerie, force est de constater que, bah alors, au début, c'est pas ce que je faisais. Mais dans ma tête, c'était un petit peu en mode, voilà, tu vas un petit peu crapahuter, tu fais des missions et tout, et tout en faisant du sport. Et puis, tu peux aussi avoir l'occasion d'entretenir ta condition physique pendant tes heures de service. Donc, c'est ce qui m'attirait aussi. Je connaissais des personnes qui étaient en gendarmerie et je savais que, voilà, elles étaient en peloton d'intervention, elles faisaient du sport, etc. Donc, ça m'attirait. Finalement, moi, je suis tombé en brigade, donc c'était complètement différent.
D'accord.
J'étais en train de prendre des plaintes derrière un bureau, mais voilà, je me suis dit que de toute façon, vu que j'y étais, il fallait que je continue et que j'essaye d'exploiter ça pour utiliser au maximum l'effet de levier et investir très rapidement. Alors au début, c'est différent parce que je me suis donné une marge de 10 ans à peu près. C'est-à-dire qu'au début, je comprenais pas encore tous les mécanismes de l'immobilier, tous les processus d'enrichissement qu'on pouvait faire. Et au début, je me suis dit, bon, bah, je me laisse 10 ans et dans 10 ans, je prends ma retraite. Et au final, ça s'est fait beaucoup plus rapidement et à chaque fois, en fait, ça diminuait. Et donc, au final, au bout de 4 ans, je suis parti.
Magnifique. Bon, ben, ça, c'est magnifique. Et je pense, là, il y a pas mal de gens qui se posent la question, comment on fait aujourd'hui pour eh bien, investir et en même temps avoir un emploi? Il y en a qui trouvent que c'est compliqué de gérer son temps, etc. Toi, tu es arrivé à faire ça comment?
Bah moi déjà c'était vraiment lié au mindset parce que pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai acheté mon deuxième et troisième appartement, c'est là que j'ai commencé à exploiter mes biens en colocation
Ok.
pour avoir beaucoup plus de cash flow. Et en fait j'étais en école. C'est-à-dire que je suis d'abord, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, je suis rentré en gendarme adjoint.
OK.
Et donc là j'avais passé à peu près 3 mois d'école. Je suis rentré en gendarme adjoint et ensuite j'ai passé le concours sous-officier. Donc là j'avais 9 mois d'école pour ensuite intégrer vraiment le corps des sous-officiers. Et en gros, moi j'étais en école. Et en école, c'est un peu compliqué parce que c'est militaire, il n'y a pas beaucoup de temps pour soi, on a des cours, etc. Enfin, c'est très intense, c'est très prenant. Et c'était pile la période où je signais des compromis, j'avais des refus de financement, du coup, il fallait que j'appelle les courtiers, il fallait que j'aille moi-même. Quand j'avais des week-ends, j'essayais de prendre des rendez-vous le samedi matin, etc. Enfin, c'était vraiment compliqué. En sachant que j'étais à Montluçon, en plein centre de la France. Donc,
D'accord.
j'ai dû gérer ça comme ça. Et là, j'avais pas le choix. J'étais au téléphone à chaque fois. Dès qu'on avait, on était en cours et dès qu'on avait 15 minutes de pause, je prenais mon téléphone. J'étais en train de checker mes mails, en train d'appeler, etc. Donc là, c'était vraiment très compliqué. Mais encore une fois, voilà, faut se donner les moyens. Et
C'est
je
clair.
savais que derrière, il y allait avoir des résultats. Donc, après, je pense que quand la personne qui a un travail lambda, on va dire, qui, voilà, qui est en CDI ou qui est salarié, je pense que c'est une question d'organisation. On a tous 24 heures dans une journée et c'est vraiment une question d'organisation. Voilà, faire sa to-do list le dimanche soir pour toute la semaine à venir et à chaque fois le soir, voilà, vraiment trier et analyser toutes les actions qu'on a à mettre en place. Et s'il faut prendre des rendez-vous et essayer de passer des coups de fil entre midi et deux, par exemple, ou je sais pas, essayer de prendre une petite pause, il y a toujours moyen de trouver le temps, je pense.
C'est clair.
C'est vraiment une question d'organisation. À mon sens, c'est comme ça que je le vois.
Voilà, je pense que je partage tout à fait ton point de vue. Là, comme tu l'as bien dit, hein, c'est vraiment l'optimisation du temps. On se fixe des objectifs et on se donne tout pour les atteindre. Je pense que ça fait vraiment la différence, comme tu l'as bien dit, le mindset. Et le mindset aussi, c'est dans les difficultés, on va en parler un petit peu plus tard, qu'on peut avoir, ça fait la différence. Donc là, on va rentrer du coup dans plus particulièrement dans l'immobilier. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quels investissements tu as fait, où tu les as fait, de quelle manière?
Bien sûr. Alors moi, j'ai commencé par un premier studio que j'ai revendu ensuite. Alors, je n'ai pas fait d'achat-revente, hein, c'est simplement que je voulais arbitrer mon patrimoine. Ce n'était pas forcément la meilleure opération que j'avais faite. C'était un studio étudiant dans ma ville, dans le Morbihan. Et donc, c'est voilà, studio étudiant, ça s'autofinançait juste. Hein, je n'avais pas de cash flow, je ne perds pas non plus d'argent, mais ça s'autofinançait juste. Et en fait, c'est un bien qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Donc, je me suis formé un petit peu comme ça. Et puis, je voulais surtout passer à l'action tout de suite pour comprendre un petit peu les mécanismes, voilà, le notaire, la banque, etc. Donc voilà, ensuite j'ai embrayé avec la colocation parce que c'est là où en fait je me suis rendu compte que la colocation c'était vraiment ultra intéressant. C'est vraiment ma stratégie, c'est la stratégie vraiment que j'adore en fait parce que voilà, ça permet vraiment de déjà diversifier son risque et en plus de ça d'augmenter la valeur au mètre carré. Donc forcément, tu décuples ton cash flow de manière assez significative. Et donc là, je me suis tourné vers des biens vraiment beaucoup plus gros du coup pour avoir plusieurs chambres et mettre en place une colocation à haut rendement. Donc j'ai acheté à Rennes. La deuxième ville, je ne la dirai pas parce que j'ai peur que ça tue le marché. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont tournés vers là.
D'accord.
Donc voilà, je préfère ne pas la dire.
Bien sûr.
Sinon, le deuxième bien, c'était à Rennes. Rennes, voilà, c'est excellent parce que c'est une ville très étudiante, ça prend de la valeur. Il y a eu la ligne à grande vitesse qui s'est construite récemment. Donc voilà, Paris-Rennes, maintenant, c'est à 1h30. Ah ouais. Donc c'est très intéressant. Les prix ont vraiment augmenté. Donc moi, j'ai eu de la chance. J'ai acheté vraiment quand c'était encore en dessous du prix du marché. Et j'ai fait une très bonne affaire. Et là, maintenant, ça a bien augmenté. Donc voilà. Là, récemment, j'ai acheté, enfin récemment, donc l'année dernière, j'ai acheté une autre coloc dans la même ville que je ne souhaite pas dire le nom. Okay. Et après, sinon, j'ai acheté des petits studios en fait. J'ai acheté 5 mini studios. D'accord. Que je loue en location classique. Okay. Mais donc c'était intéressant parce que j'ai pu avoir un différé. J'ai fait des travaux, donc c'est intéressant pour les travaux parce que fiscalement c'est assez puissant. J'ai aussi obtenu un différé et il y avait pas mal de cash flow. Donc voilà. Mais maintenant, c'est vrai que c'est pour ça qu'après, j'ai réinvesti avec de la coloc. Et là, mes prochaines opérations que je souhaite faire après le confinement, pareil, ça sera de la coloc aussi.
Super. Et du coup, là, ma question que je me pose, c'est du coup, tu investis plus, c'est loin de chez toi, c'est près de chez toi? Parce que ça, c'est une vraie question qu'on nous pose. Est-ce qu'on investit à distance? Est-ce qu'on investit près de chez soi?
Alors, mes grosses colocations, elles sont pas très loin puisque ça reste dans la même région.
D'accord.
Donc elles sont maximum à 2 heures de route, ce qui, okay, pour moi, je trouve, reste correct. 2 heures de route, en sachant que voilà, maintenant, c'est peut-être différent quand on est encore salarié, par exemple, parce que 2 heures de route, bon voilà, faut essayer de les placer dans la semaine, par exemple, si on a un aller-retour à faire. Mais maintenant, en tant qu'indépendant financièrement, c'est vraiment très correct. Donc j'essaie d'automatiser les processus pour que voilà, si je me déplace une fois, je fasse tout en même temps. Et les studios là que j'ai acheté sinon, donc c'est au Mans et donc c'est à 3 heures de chez moi à peu près. Donc okay, c'est un peu plus loin. C'est un petit peu plus loin. Alors après, quand j'ai acheté, j'étais vraiment, enfin je le suis toujours, mais je suis vraiment en mode peu importe si c'est loin ou si c'est à côté, S'il y a une très bonne affaire à faire, je fais mes calculs en vitesse et je fonce. Enfin, je fais mes calculs en vitesse, je les fais bien,
Bien sûr,
mais voilà, j'essaie de réagir assez rapidement. Après, c'est une bonne balance à avoir, c'est-à-dire que il faut faire ses calculs. Il faut voir si le bien il va être en gestion locative, oui ou non. Est-ce que avec les temps de trajet, donc voilà, c'est des calculs à faire. Mais en fonction du cash flow qu'on peut avoir, on peut s'octroyer le fait d'investir potentiellement assez loin de chez soi, je pense.
Ok, très bien. Et du coup, quand tu investis, pas forcément, effectivement, comme tu l'as dit, à 5 minutes à pied de chez toi ou à 5 minutes en voiture, est-ce que toi, tu délègues une partie, délègues la totalité ou tu fais tout toi-même? Comment tu fais?
Alors moi, j'ai aucun bien qui est en gestion locative. C'est moi qui ai
D'accord.
fait tout moi-même. En fait, ce que je me suis rendu compte au début, c'est que même toujours, hein, c'est qu'au final, une fois que les locataires sont présents, il n'y a pas vraiment de turnover. Honnêtement, c'est très facile de gérer. Il y aura des turnovers surtout l'été, mais c'est quand même très abordable. Donc moi, je gère tout moi-même. Parfois, je fais des allers-retours. Après, j'essaie d'automatiser aussi.
Très
Donc
bien.
non, moi, je gère tout moi-même.
Et du coup, toi, tes colocations, elles sont plus étudiants, jeunes professionnels ou les deux ou autre chose?
Étudiante, ouais, majoritairement, à 95%, j'ai envie de dire.
Ok, très bien.
Sont étudiantes. Ouais.
Et puis toi, tu préconises 3, 4, 5, 6 personnes, c'est plus quoi ou tu fais un peu de tout?
Alors, moi, j'ai du 3 personnes et du 4 personnes.
Ok, ça
J'ai,
marche.
euh, donc, moi, je pré... Alors, après, ça dépend vraiment de la surface du bien. Il y a un grand débat, hein, sur le fait de laisser un salon et de mettre par exemple 4 ou 5 chambres, ou alors d'enlever le salon et de faire une chambre supplémentaire. Moi,
Exact.
je préconise toujours de garder un espace de vie parce que l'idée, c'est vraiment que les locataires, ils s'y sentent bien. Donc, autant laisser un espace de vie et vraiment faire du haut de gamme pour potentiellement augmenter le loyer, augmenter chaque loyer, plutôt que de mettre un loyer qui sera pas correct, vraiment faire du marchand de sommeil et ne pas avoir d'espace de vie. Donc,
Je vois. Vraiment
ouais.
privilégier le confort du locataire. Donc, même nous, c'est ce qu'on dit
Ouais.
souvent. On n'est pas là à essayer de faire le plus d'argent possible. On rend un service à quelqu'un. Et si on
Bien
rend
sûr.
service de manière vraiment correcte, même très bien, bah, on est rémunéré pour, quoi, et tout le monde est content.
Voilà, c'est ça. À hauteur de la valeur qu'on apporte sur le marché, hein. Après, c'est logique aussi. Donc,
C'est clair. C'est clair, c'est clair. Quand je vois tous ces investissements, bah déjà, bravo à toi. Est-ce
Merci.
que, du coup, dans ton parcours d'investisseur, je pense qu'on en a tous eu, mais des fois, il y a des anecdotes intéressantes. Est-ce que tu as eu des difficultés, des choses sur lesquelles tu as buté, ou tu as trouvé des solutions, ou tu as dû réfléchir?
Moi, ça a été surtout l'aspect financement bancaire. Faut vraiment être très pro là-dedans. Et encore, même en étant très pro, on est confronté, en fait, c'est parce que c'est un paramètre qu'on maîtrise pas forcément, en fait. Alors, on peut le maîtriser en étant très pro, en ayant un business plan très structuré, en étant organisé, en connaissant vraiment l'écosystème du milieu bancaire et en convaincant le banquier, mais parfois on est face à des interlocuteurs, pardon, qui sont entre guillemets à côté de la plaque. Et franchement, faut le dire,
C'est
faut le
clair.
dire. Moi, je connais beaucoup de banquiers qui sont très pros, il n'y a pas de souci. J'ai des amis qui sont banquiers, mais malheureusement, dans le tas, c'est comme partout, il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Et il y a des personnes, c'est pas forcément leur métier, hein, tout ce qui est investissement immobilier, etc. Elles vont pas forcément comprendre ce mécanisme-là, surtout quand on commence à rentrer dans des stratégies type location courte durée ou colocation. Et donc, parfois, ça peut être compliqué parce que moi, j'étais confronté face à des personnes qui comprenaient vraiment pas. Et c'était, bah voilà, ça m'a freiné, en fait. Ça m'a un petit peu freiné.
Ouais, c'est clair. Franchement, et je pense que ça, c'est quelque chose à bien retenir. Et ça, à moins vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de chance, on va toujours rencontrer des professionnels qui, finalement, ne sont pas si professionnels que ça. Que ce
Bien
soit les
sûr.
agents immobiliers, que ce soit les courtiers en travaux, les courtiers en banque, les banquiers, etc. Je pense qu'il faut être vraiment préparé. Et on en revient au mindset, comme tu l'as dit tout à l'heure. Hein.
C'est ça.
Si tu rencontres, je sais pas, un ou deux banquiers, et que le banquier te dit non, c'est pas possible, et puis que toi tu t'arrêtes là-dessus, bah, tu vas pas très loin, quoi.
C'est ça. D'où l'importance d'être vraiment bien câblé et de faire un travail vraiment sur son état d'esprit au début, parce que ça reste une sorte de compétition, en fait. Voilà, une fois que c'est fait, tout est automatisé. Après, ça dépend des différentes tâches. Mais au début, c'est une petite compétition. Hein. À partir du moment où on prospecte, où on va sur le terrain, où on rencontre les personnes, où on fait des offres, elles passent pas, les notaires, etc. Les notaires, c'est pareil, ça peut prendre du temps aussi parfois,
C'est clair.
selon les études. Il y en a qui sont aussi un petit peu à côté de la PAC. Hein, donc c'est compliqué. Il faut maîtriser tout ça. Mais encore une fois, voilà, si on a un bon état d'esprit, si on se laisse pas abattre, bah voilà, hein, c'est juste une question de temps et de persévérance surtout.
Ouais, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'entre guillemets, quand on ne connaît pas un secteur, quand on ne connaît pas quelque chose, par exemple, bah, on n'est pas notaire, hein, on n'est pas non plus courtier, etc., on
Bien
peut
sûr.
vite se prendre des portes et se dire bah, finalement que la personne a la raison. Alors que finalement, tu te rends compte que si tu vas deux portes plus loin, eh ben, tu as une toute autre réponse.
Tout à fait, ouais.
J'avais une question pour toi, du coup. Alors, la majeure partie de tes investissements, c'est de la colocation. Tu as des studios aussi en location classique. Mais est-ce que tu as autre chose à location courte durée ou pas du tout?
Non, pas du tout. Je sais que c'est une stratégie très intéressante, mais moi, ça m'attire pas.
Ok.
Ça m'attire pas. Je connais des personnes, hein, des gens de mon entourage qui le font. Ça marche très, très bien. Mais moi, je sais pas. J'aime pas trop, en fait. J'aime pas trop. C'est surtout le fait de reposer toute cette stratégie sur du tourisme aussi. Là, on le voit actuellement.
C'est
C'est
clair.
très compliqué pour toutes les personnes qui ont reposé leur stratégie là-dessus. Et d'où l'intérêt aussi de diversifier son parc immobilier et ses stratégies. Et en fait, on dépend de l'activité du tourisme, en fait. C'est-à-dire que l'immobilier, ça répond à un besoin profond. Donc, il y aura toujours des gens pour se loger. Et là, on le voit, par exemple, en location classique. Hein, on est en confinement. Donc, forcément, les gens, ils sont tous chez eux.
C'est clair.
Donc, voilà. Ça répond vraiment à un besoin profond. Néanmoins, la courte durée, ça répond aussi au besoin de se loger, mais par une clientèle de tourisme. Enfin, surtout parce qu'il n'y a pas que des touristes. Mais essentiellement, c'est composé quand même à 80% de tourisme. Et donc forcément, bah, c'est une composante qu'on ne maîtrise pas du tout. Bah, là, on le voit aujourd'hui, le tourisme aujourd'hui, c'est très compliqué en ce moment avec le confinement, avec tout ce qui se passe. Je trouve que c'est trop. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Donc
Ok.
voilà. Après, c'est toute une question personnelle aussi. Hein. Voilà, moi,
Bien sûr.
je préfère avoir des locations classiques à l'année. C'est juste un point de vue personnel.
Ouais.
Mais encore une fois, la courte durée, c'est très intéressant et ça crache beaucoup de cash flow. Ça,
C'est
c'est clair.
clair. C'est clair, c'est clair. Et ok. Bah effectivement, hein, comme tu l'as bien dit aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on se dit toujours que c'est bien, même dans l'immobilier, de diversifier potentiellement ses sources de revenus.
Bien sûr.
Et là, je pense que là, la leçon va entre guillemets être prise rapidement par les personnes qui font
Je pense.
que de la courte durée, malheureusement. Est-ce que toi, aujourd'hui, vraiment, tu as un conseil que si, je sais pas, on t'avait donné il y a 3 ans, t'aurait vraiment encore plus propulsé? Ou pas du tout? Il y a quelque chose vraiment que tu suis?
Bah, en fait, c'est surtout le conseil de se former et d'être accompagné et d'être constamment dans le développement permanent de ses connaissances, en fait. Parce que plus on a de connaissances, plus on est formé et plus on va faire les bons choix. Moi, si j'avais pas connu tout ça, bah là, aujourd'hui, je serais en études encore. Donc voilà, donc j'aurais perdu énormément de temps et potentiellement j'aurais perdu de l'argent aussi. Parce que qui dit études dit appartement, études, etc. Donc tout ce qui va avec. Donc
C'est clair.
c'est vraiment important de se former et d'avoir les connaissances le plus rapidement possible. Et si j'avais su tout ça à 15 ans, par exemple, je pense que voilà, j'aurais fait complètement différemment et je pense que j'aurais arrêté l'école, je pense, à 16 ans pour essayer de trouver une filière professionnelle dans le but d'avoir un salaire très très rapidement, de mettre vraiment énormément d'épargne, de choper mon CDI à 18 ans et d'enchaîner tout de suite.
Clair.
Donc voilà. Donc après, on est quand même relativement jeune. Il y en a qui découvrent l'immobilier à 50 ans, par exemple. Donc c'est quand même une chance. Mais c'est vrai que plus on est formé le plus rapidement possible, et mieux c'est, en fait, tout simplement.
Clair.
Après, le reste, c'est vraiment de la technique et c'est plus de la technique en fait. Voilà, savoir prospecter, savoir convaincre le banquier, savoir faire un business plan, connaître les modes de gestion, etc. C'est plus de la technique et ça s'acquiert au fil du temps, mais au début, c'est vraiment de travailler son mindset et de se former.
Super. Alors, on le dit souvent, hein. On le dit souvent, l'immobilier, bah, les montants, ils sont quand même assez importants. Et des connaissances, ça peut vite valoir beaucoup, beaucoup d'argent, soit en gain, ou malheureusement, si tu ne les as pas, en perte. Donc, ça peut vite aussi te freiner si tu n'as pas été assez
Bien
formé.
sûr.
J'avais aussi, du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont, entre guillemets, un peu peur de la vision de leur entourage. Et là, toi, tu parles, par exemple, tu as commencé à investir à 21, 22, et que si tu avais pu, tu aurais investi avant. Est-ce que toi, tu as eu des, entre guillemets, des soucis avec ton entourage ou alors tu t'en fichais complètement, tu avançais tête baissée?
Non, alors moi je me suis un petit peu enfermé dans une bulle entre guillemets et vraiment j'écoutais uniquement les personnes qui avaient des résultats et c'est toujours le cas d'ailleurs que ce soit aussi dans d'autres domaines hein, que ce soit dans le sport dans le business en ligne etc. et j'écoute uniquement les personnes qui ont des résultats et les autres personnes soit je m'en préoccupe pas du tout. Ou soit, voilà, maintenant, vu que je suis assez armé en termes d'état d'esprit, bah, je les écoute, mais ça me fait ni chaud ni froid. Typiquement, la famille, parce que la famille, elle est vraiment là pour, pas forcément pour te mettre des bâtons dans les roues, alors après, ça dépend, mais surtout plus pour te protéger.
C'est
Et
clair.
c'est des gens qui comprennent pas forcément, et donc pour te protéger, justement, elles vont vouloir bah, voilà, que tu restes un petit peu dans le système classique, et vont vouloir que tu freines un petit peu. Et moi, c'était le cas un petit peu avec mes parents au début, quand j'ai acquis mon premier bien. Voilà, tout était bien. J'ai même fait visiter à mes parents quand j'avais un turnover. J'en avais profité pour le montrer à mes parents, leur dire voilà, tout est là, etc. Après, quand je leur ai rapidement expliqué ce que je faisais et que je comptais justement démissionner, donc voilà, ils m'ont rien dit de spécial, mais ils m'ont fait une petite leçon. Ils m'ont dit voilà, fais attention quand même, parce que tu as un travail, tu es en CDI, etc. Donc voilà. Ils m'ont un petit peu aiguillé à leur façon par rapport à ça. Mais sinon, voilà, j'ai quand même été confronté à des personnes, hein, même quand j'étais en brigade et tout, à des personnes beaucoup plus âgées que moi, qui avaient la quarantaine, la cinquantaine, qui étaient censées avoir énormément d'expérience dans leur domaine et qui me disaient, fais attention parce que voilà, tu es encore jeune, tu n'es pas encore sous-officier, parce que mon premier bien, je n'étais pas encore sous-officier.
D'accord.
Et ils disaient donc fais attention, voilà. Donc ça servait à rien de leur expliquer en fait, parce que ça aurait été au même stade et ils comprenaient pas forcément.
Ah, c'est
Et là
clair.
aujourd'hui ils sont au même point. Donc
Donc, on voit qui a fait le meilleur choix.
ouais voilà c'est ça. Donc vraiment s'entourer des bonnes personnes et puis écouter uniquement les personnes qui ont des résultats en fait, parce que les autres, s'ils n'ont pas de résultats, ils ne pourront pas te dire ce qui est bien, comment il faut le faire, etc.
C'est clair. Non, je pense que tu as tout à fait raison là-dessus et ça fait vraiment. Ça fait vraiment la différence si tu avances ou pas, hein, si tu écoutes vraiment les personnes qui sont compétentes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que toi, tu t'es entouré d'une équipe genre d'artisans, agents immobiliers, notaires, ou tu travailles un petit peu avec plein de monde?
Ouais, alors je me suis entouré d'une petite équipe. Ça dépend en fait des lieux où j'ai investi. Mais là où j'ai investi, j'ai certaines personnes du coup dont j'en ai fait un petit peu des atouts en fait, parce que je sais que je peux compter sur ces personnes-là, que ce soit des artisans, des gardiens d'immeubles aussi, très important, des gardiens d'immeubles où j'ai vraiment des bonnes relations avec eux et c'est très important parce que ça peut aider dans certains cas. Donc, non, non, c'est notamment un immeuble où j'avais donné les doubles en fait. Alors maintenant, c'était plus le gardien, mais c'était plus le même gardien. Mais avant, j'avais donné les doubles. Et donc voilà, il avait un système comme ça où il avait des doubles de certaines personnes dans la résidence. Et quand tu fais du locatif, c'est intéressant parce que ça peut permettre de voilà, si tu as les étudiants, et c'est déjà arrivé, les étudiants peut-être en l'air qui peut-être n'avaient pas leurs clés ou etc. Et ça peut bien servir. Donc, d'avoir quelqu'un vraiment au local comme ça, c'est intéressant. Ouais.
Ah, ça c'est sûr, ça
Agent
c'est sûr.
immobilier aussi.
Très bien. J'avais une question aussi. Est-ce que du coup, je reviens là-dessus, mais est-ce que toutes tes locations sont meublées ou tu veux aussi la location?
Oui.
Ok, toutes les
Non,
locations
c'est
meublées.
uniquement la location meublée. Ouais.
Ok, très bien.
C'est ce
Très,
qui est
très
le plus intéressant de toute façon. Hein.
bien. Ouais, c'est clair, hein, on est d'accord là-dessus. Et puis, et vu,
C'est...
entre guillemets, selon le type de personnes qu'on souhaite cibler, eh ben, ça fait vraiment aussi ça fait vraiment
Bien sûr.
la différence que ça soit meublé ou non. Ok, excellent. J'avais une question aussi maintenant, parce que tu nous l'as dit, et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait un peu rêver les gens des fois, et même souvent, c'est tu es indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait ce choix? Est-ce que ça a été difficile? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tu te dises, ça y est, maintenant, c'est terminé?
Bah du coup, comme je t'ai dit au début, j'avais plus une vision sur 10 ans, par exemple, où je me suis dit, bon, bah voilà, je ne faisais pas vraiment de calcul dans ma tête. Je ne me disais pas, par exemple, voilà, je vais avoir tant de cash flow, ce qui est une erreur, hein, parce qu'il faut quand même quantifier un petit peu ses objectifs. Mais je me disais, OK, dans 10 ans, je me débrouille, mais je suis indépendant financièrement. Au final, ça s'est fait beaucoup plus tôt et tout était une histoire de calcul. Moi, je pense que j'ai arrêté l'année dernière. Peut-être que si j'avais pas développé d'autres business, parce qu'après moi j'ai créé aussi d'autres activités, notamment dans le e-commerce, si j'avais pas ce projet-là, peut-être que je serais resté encore un an ou deux de plus pour encore investir encore plus et partir avec plus de cash flow. Mais après moi je suis parti avec 2 700 de cash flow
OK.
et honnêtement c'était vraiment très convenable pour partir et je savais que derrière, parce que mon cash flow allait baisser vu que j'avais des différés. Mais je savais que derrière, voilà, je voulais développer aussi d'autres activités et que avec le mindset que j'avais, je savais que ça allait marcher et que du coup, bah, derrière, j'aurais augmenté un petit peu mes revenus.
Super.
Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait le choix. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'investir dans un dernier bien avant de partir. Et c'était le cas. Et voilà, je voulais investir dans 2 biens. J'en ai eu un, c'était refusé. Donc voilà. Et je suis parti avec un bien,
Ok, excellent.
et
Bon,
puis
ça,
comme ça, j'étais tranquille.
c'est super top. C'est super top. Est-ce que, du coup, ma question maintenant, c'est du coup, tu es indépendant financièrement et ça te permet vraiment d'avoir beaucoup plus de temps pour essayer de développer d'autres choses. Effectivement, c'est ça. Hein?
Tout à fait, ouais.
Ouais, donc ça, c'est vraiment top. Et
Tout à fait.
là, j'avais
T'as,
bon, là,
tu
j'ai une
achètes
question.
ton temps, en fait.
Ouais.
Tu achètes ton temps en fait. Et je pense que le temps, c'est une des valeurs les plus précieuses. Et c'est ce qui permet vraiment d'atteindre la liberté. Parce que au-delà de la liberté financière, c'est aussi une liberté temporelle, géographique, hiérarchique. Et c'est très intéressant de le prendre en compte parce que voilà, au-delà de l'aspect financier, bah, tu peux passer plus de temps avec ta famille, avec tes proches, sur d'autres activités, te former à d'autres choses. Essayer de développer une passion, etc. Donc c'est vraiment enrichissant et très intéressant.
C'est vrai que le temps est vraiment la ressource la plus précieuse. On s'en rend compte. On s'en rend compte. On n'arrive jamais à gagner du temps. C'est
Il y en a
compliqué.
qui s'en rendent pas compte, justement.
Ouais.
Il y en a qui s'en rendent pas compte et c'est problématique parce qu'elles repoussent sans cesse, en fait. Elles procrastinent et c'est dommage.
Excellent. Une question aussi maintenant, voilà, qui est vraiment d'actualité. On en a parlé vaguement un petit peu, mais je pense qu'on va revenir pareil au mindset, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sera super intéressant dans cette interview. On est en pleine crise en ce moment, là, c'est la crise du Covid-19. Les gens qui nous écoutent le savent, en tout cas au moment où on fait cette interview. Toi, tu le ressens comment dans l'immobilier de manière générale? Tu vois plutôt problème, opportunité. Qu'est-ce que c'est pour toi?
Moi, je vois des opportunités. J'en vois des opportunités. Pourquoi? Parce que, bah, pour plusieurs raisons. Alors, déjà, il faut savoir que là, tout est gelé. Donc, voilà, c'est vraiment le moment de se former. Et pour l'instant, tout est gelé. Tout ce qui est études notariales, même si ça fonctionne en télétravail, mais tout ce qui est études notariales, financement, agent immobilier, prospection, tout est gelé. Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien d'aller sur le terrain. De toute façon, on ne peut pas. Il faut plus établir son plan d'action justement pour l'après-confinement parce que je pense que pour l'après-confinement, c'est là où il va y avoir tout un tas d'opportunités. Pourquoi? Parce que bah déjà, d'un point de vue financement bancaire, je pense que… Alors, on ne sait pas comment peuvent évoluer les taux, mais en termes de quotas annuels, c'est sûr et certain que les banques, elles ne pourront pas remplir leurs objectifs annuels.
C'est clair.
avec ce qui s'est passé depuis bah là, ça fait déjà à peu près un mois, un petit peu moins, mais voilà, on en parle depuis à peu près un mois. Le confinement, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Il reste, je pense que ça va être tout le mois d'avril encore. Donc voilà, les banques, c'est sûr et certain qu'à la fin de l'année, elles n'auront pas rempli leurs objectifs annuels. Et donc forcément, peut-être qu'il sera plus facile de prétendre au crédit. C'est-à-dire qu'elles vont un petit peu baisser leurs conditions d'octroi de prêt et ça serait peut-être plus simple justement d'emprunter parce qu'il faudra forcément qu'elles atteignent leurs objectifs, même si encore une fois, le crédit immobilier, ce n'est pas là où elles gagnent le plus d'argent. Mais derrière, ça en découle sur tout un tas de choses comme les assurances, etc. Donc moi, ça, c'est mon point de vue. Et deuxièmement, au niveau du marché immobilier, je pense qu'il va en prendre un petit coup aussi. Parce que, y a beaucoup de personnes, alors pour diverses raisons, mais qui vont revendre. Déjà, je pense que bah, toutes les personnes qui ont reposé toute leur stratégie sur la courte durée et que niveau mindset, ils ne sont pas assez armés, ils vont tout revendre parce que le cash n'y rentre pas et que bah, forcément, si le cash n'y rentre pas, ça peut créer des grosses difficultés financières. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont revendre. Il y a aussi des personnes qui sont très endettées et qui, voilà, elles ont plus de salaire, etc. Elles n'ont plus rien. Donc, du coup, si elles ont du patrimoine, elles vont aussi revendre. Il y a des situations de divorce, etc., où là, c'était en pleine phase de vente. Donc là, ça va être très compliqué. Et ce qui se passe, c'est qu'en face, il n'y aura pas forcément de demande. C'est-à-dire qu'au niveau des acheteurs, il se peut que le marché soit freiné dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui vont prendre peur. Et qui vont pas forcément vouloir acheter. Donc forcément, ça va créer un déséquilibre entre bah, la loi de l'offre et la demande. Donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont vendre et à côté de ça, peu d'acheteurs. Donc ce qui fait que les prix vont quand même chuter. En tout cas, c'était mon point de vue. Et je le ressens comme ça parce que je vois beaucoup de personnes qui sont en difficulté et que malheureusement, beaucoup d'aussi ont reposé toute leur stratégie sur la courte durée, par exemple, et qui vont se retrouver vraiment en grosse difficulté. Donc voilà, moi je le vois comme ça et je pense que ça va vraiment être des grosses opportunités. Et de toute façon, en temps de crise, c'est toujours là où il y a des très bonnes affaires à faire, que ce soit pas forcément dans l'immobilier, mais même sur les marchés financiers, etc. Donc voilà comment moi je vois les choses pour l'après-confinement, on va dire. Mais je pense que ça va pas durer parce que voilà, le marché il va reprendre son cours et tout va refonctionner normalement, on va dire. Donc
En tout cas, on
après, je sais pas
espère.
comment. Ouais, voilà. Alors après, je sais pas comment toi tu vois les choses, mais en tout cas, moi je vois les choses comme ça.
Non, c'est clair. Non, alors moi, effectivement, et je pense que c'est toujours ça, et c'est pour ça que je revenais sur cette question, hein, cette histoire de mindset où voilà, les opportunités, elles se créent dans ce genre de moment-là. Comme tu l'as
Bien
dit, je
sûr.
suis d'accord avec toi. Pour moi, les fondamentaux de manière globale sont bons. Et du coup, ça devrait repartir assez rapidement. Et du coup, il va y avoir un laps de temps, on va dire, je dirais, assez court, où il peut y avoir des opportunités assez intéressantes. Et
Bien
bah,
sûr.
c'est juste pour rebondir un petit peu aussi sur ce que tu as dit. Alors, c'est vrai que la majeure partie des activités sont quand même gelées. Néanmoins, il y a des gens quand même qui arrivent. Je sais qu'il y a certainement qui tournent au ralenti. Donc, effectivement, là, c'est dans ce genre de moment aussi, je pense, que tu peux faire la différence avec un dossier qui est magnifique, on va dire un dossier d'emprunt
Bien
qui est
sûr.
magnifique, ou avec, par exemple, des agents immobiliers. Je sais qu'il y en a certains dans ma région qui ne veulent pas visiter de biens, sauf qu'il y en a dans d'autres régions, notamment dans le sud-ouest de la France, ils font des visites par FaceTime ou par visio.
Ou virtuel, ouais.
Exactement. Donc, des
Ah
fois, il
oui,
y a
ça se fait,
des…
hein. C'est vrai qu'il y a, y a, y a quand même des opportunités à saisir en fonction de là où on se trouve, hein. C'est vrai que même si le marché est gelé d'un point de vue général, mais il y aura toujours des petites opportunités à faire ou des études notariales qui vont fonctionner en télétravail, ou des banques qui vont. Même si les banques, je crois que toutes les demandes de financement, toutes banques confondues, je crois que tout est gelé, je crois. Mais
OK.
ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des. Voilà, tu peux toujours trouver des choses hallucinantes, quoi. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un qui se fasse financer le mois prochain, par exemple. Ça ne m'étonnerait pas.
Ouais, c'est comme ça, toujours des bonnes surprises.
Oui,
Il faut vivre
bien
avec
sûr.
ça aussi, hein, avec un petit espoir et ça fait
C'est ça, et c'est ce qui fait qu'il y a des opportunités aussi, et c'est là qu'il faut les saisir. Donc,
super.
ouais.
Bon, bah, excellent. Écoute, Geoffroy, c'est une super interview. On a appris pas mal de choses. T'es présent assez présent sur les réseaux sociaux. Tu veux nous en parler un
Ouais.
petit peu?
Alors, ouais, j'ai une très grosse présence sur Instagram. C'est un réseau très intéressant. J'ai aussi une présence sur YouTube où j'ai une chaîne YouTube, donc Geoffroy Galli, Instagram Geoffroy Galli également. Et puis après, avec mon site internet où là je propose des programmes de formation et de coaching plus premium, plus personnalisé en fonction des situations de chacun.
Super. Bon, on mettra ça évidemment en description de cette vidéo podcast pour notre audience, parce que c'est bien aussi d'avoir différents points de vue. On voit que toi, tu es indépendant financièrement et c'est vraiment déjà encore félicitations. On voit
Merci à
aussi
toi.
que tu es plus spécialisé dans la colocation. La colocation, pour toi, c'est, on va finir là-dessus, c'est quoi les plus gros avantages et les plus gros inconvénients?
Alors, les avantages pour moi, la colocation, déjà, ça permet de diversifier son risque, parce que forcément, au vu du nombre de personnes qu'on va avoir dans l'appartement, le risque, entre guillemets, il repose plus sur une seule personne, mais sur plusieurs personnes. Donc, ça permet vraiment de diminuer et de diluer ce risque-là. Ce qui fait que si demain, tu as un locataire qui ne paye pas ou un locataire qui part, derrière, tu sais que tu as toujours les autres loyers qui vont arriver. C'est également. Enfin, l'avantage, c'est que c'est aussi un mode d'exploitation qui est de plus en plus utilisé par les locataires. Donc, pas forcément par les investisseurs, peut-être, mais surtout par les locataires, dans le sens où il y a de plus en plus de personnes qui recherchent à se loger en colocation parce que financièrement c'est très intéressant pour eux et d'un point de vue aussi psychologique, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'aiment pas forcément être tout seuls et ils préfèrent être avec d'autres gens et c'est le cas aussi avec certaines personnes qui sont dans mes colocs où je rencontrais les parents et ils me disaient que voilà, ils venaient de sortir du bac et qu'ils préféraient être avec d'autres personnes, d'autres étudiants, que ce soit plus en communauté. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui recherchent ce mode d'exploitation. Et puis, en termes de cash flow, c'est très intéressant parce que forcément, tu multiplies la valeur au mètre carré de tes logements, ce qui fait que pour un 90 mètres carrés, par exemple, forcément, tu vas avoir beaucoup plus de loyers. Donc, en termes de cash flow et d'excédent de trésorerie, c'est ultra, ultra puissant. Et en termes d'inconvénients, moi, je vois pas forcément d'inconvénients. Honnêtement, je vois pas forcément d'inconvénients. Il peut y avoir la rotation de locataires, mais ça, j'ai envie de dire, la rotation au final, elle est présente dans tous les modes d'exploitation. Ce qui fait qu'un étudiant qui va être dans un studio tout seul à l'année, il va avoir autant de probabilités de bouger que d'autres étudiants qui seront en coloc. C'est juste qu'il y en aura plus dans une colocation.
C'est clair.
Encore une fois, ça se gère facilement parce que généralement les étudiants ils partent au même moment. Et si tu y vas une fois, tu fais une visite une fois avec plusieurs personnes. C'est exactement la même chose que si tu faisais une visite pour une seule personne qui est dans un studio, par exemple. Donc voilà, les petits inconvénients qui peuvent y avoir, ça peut facilement s'effacer en fait. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. Entre une location classique et une colocation, j'ai pas forcément
Une grosse différence, quoi.
j'ai pas forcément de grosses différences.
Ok.
Donc voilà.
Ok. Bon, excellent. Bon, on se finit là-dessus, sur cette bonne note de la colocation.
Ouais.
Écoute, encore merci, Geoffroy, pour ton temps. C'était un plaisir de t'interviewer.
Merci à toi.
J'espère que notre audience appréciera ces différentes réponses, questions et mindset surtout, qui était super intéressant. Et on se retrouve du coup pour peut-être une prochaine interview.
Ça marche. Merci à toi en tout cas, ça fait extrêmement plaisir.
De rien. Ciao, ciao.
Merci, ciao.
Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère qu'il était très instructif pour toi. En tout cas, n'hésite pas à le partager, le liker si jamais ça te plaît et que tu souhaites avoir du contenu supplémentaire. N'hésite pas non plus à nous retrouver sur notre chaîne YouTube pour plus d'informations. À très bientôt.